l'alternance de Paris est annoncée.
Dans votre bouquin, François Cusset, je rappelle le titre, La décennie, le grand cauchemar des années 80, vous restez quand même dans la sphère française.
Ce qui m'a intéressé, c'est quand même le paradoxe français. C'est qu'effectivement, pour un résultat idéologique assez similaire, enfin le passage en force d'idées libérales au plan économique et conservatrices au plan culturel, la méthode a été quasiment inverse, puisque face à Thatcher et Reagan, on a une gauche d'abord très populaire, en plein état de grâce, qui ensuite le sera moins, et face au mouvement ultra-réactionnaire de America is back et des blancs mâles au pouvoir aux États-Unis, on a le gauchisme culturel, la subversion actuelle, Libération, Canal+. Donc on semble suivre un chemin inverse. Ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre comment, par ce chemin inverse, on arrive à des résultats pas très différents.
20h, voilà l'estimation. 20h, François Mitterrand aurait obtenu, selon la Sofres, je vous en prie, non. Les gens qui vous regardent aimeraient regarder tranquillement et je vous en remercie. 51,7%, François Mitterrand deviendrait le nouveau président de la République. Nous allons affiner ces chiffres avant de vous donner l'information brute.
Humble militant pénétré d'idéal, qui dans chaque commune de France, dans chaque ville, chaque village, toute leur vie, ont espéré ce jour où leur pays viendrait enfin à leur rencontre. À tous, je dois, et l'honneur, et la charge des responsabilités qui désormais m'incombent. Je ne distingue pas entre eux, ils sont notre peuple et rien d'autre. Je n'aurai pas d'autre ambition que de justifier leur confiance. Nous avons tant à faire ensemble et tant à dire aussi. Des centaines de millions d'hommes sur la Terre sauront ce soir que la France est prête à leur parler le langage qu'ils ont appris à aimer d'elle.
Voilà la déclaration de François Mitterrand à l'hôtel du Vieux-Morvan. On est le 10 mai 1981. Nous avons tant à faire ensemble, dit-il. Serge Alimi.
Oui, il y a deux choses à noter. La première, c'est que jusqu'en 1981, la gauche arrive au pouvoir grâce à des fractures de l'histoire. Le Front populaire, la résistance. Elle réforme beaucoup, elle dure peu, et elle impose de longues périodes de veille aux humbles militants pénétrés d'idéal qu'évoque François Mitterrand le soir de son élection. Ces militants qui espèrent en général tenir assez longtemps pour être encore debout un jour de juin 36 ou de mai 68. À partir de mai 1981, les choses vont changer. Parce que à partir de 1981 et de la normalisation libérale, l'alternance va se banaliser. Souvenons-nous, en 1981, l'élection de François Mitterrand, c'est la fuite des capitaux, l'effondrement de la bourse, qui perd 20% en quelques jours. Et lorsque François Mitterrand est réélu 7 ans plus tard, rien de pareil ne se produit. Il n'y a pas de chute des capitaux et la bourse même salue la réélection du président socialiste. L'autre dimension qui est importante, c'est que quand François Mitterrand est élu, jamais dans l'histoire, la gauche n'a été aussi puissante. C'est la première fois qu'elle contrôle à la fois la présidence de la République et une présidence de la République renforcée par les institutions de la Ve République, qu'elle va disposer d'une majorité parlementaire, qu'elle dispose d'instruments économiques et monétaires considérables du fait des nationalisations qui sont intervenues à partir de 1946 à la Libération. Donc c'est une gauche très puissante qui arrive au pouvoir, qui a été écartée des responsabilités pendant 23 ans, qui naturellement a un certain nombre de demandes, de réformes, et qui va avoir l'intention de les mettre en œuvre très vite, et d'autant plus vite, on l'a su plus tard, que François Mitterrand redoutait, du fait de son cancer, de ne pas rester en vie très longtemps.
Frédéric Lordon, en quoi consiste finalement le corps de doctrine en matière de politique économique des socialistes quand ils arrivent au pouvoir? On pourrait dire, pour faire simple, deux choses. Premièrement, une politique de relance qui a aussi des bonnes propriétés de redistribution sociale. Deuxièmement, les nationalisations. Alors, il faut traiter ces deux choses différemment. La politique de relance, c'est sans doute là qu'était le point d'obsolescence véritable du référentiel économique de la gauche. On peut l'en excuser parce que il faut garder en mémoire qu'on sort d'une période de 30 ans pendant laquelle le référentiel keynésien